Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h07, nous sommes de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Nous sommes en direct, mais évidemment, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. On a évoqué les révélations, les fuites dans la presse de cette réunion en juillet dernier des présidents de la Ligue 1 qui a viré au pugilat. On en a parlé à partir de 9h. On a évoqué Fabien Galthié, ce qu'il joue gros dans cette fin de tournoi des destinations. Bref, vous pouvez réécouter tout ça tranquillement ce matin. On cartonne en podcast. Donc, merci infiniment, évidemment, de nous écouter toujours aussi nombreux. Ce matin, Christophe Cessieux, Fred Le Canu pour sa première avec nous, le judoka, Marc Madiot, Simon Dutin et un habitué désormais de la bande, c'est Fred Weiss qui nous rejoint. Salut mon Fred.
Bonjour à tous.
Comment
s'est passée ta semaine au ski?
Ah, j'ai bronzé, c'est pas permis. Oui. C'est pour ça que je suis pas venu. Hein. Je serais venu sinon, mais je suis trop bronzé là.
Il tient pas sur les spatules.
Il a pas besoin de chaussures de ski, ni de ski d'ailleurs.
C'est des chaussures normales.
T'as essayé ou pas?
Avec 56 fillettes.
Est-ce que t'as essayé le ski quand même, mon Fred?
Non, pas du tout. J'essaierai jamais, je crois.
Ok, très bien. Bon, reviens en forme, évidemment, très prochainement, la semaine prochaine, le week-end prochain. Dans les GG, on pouvait pas faire un débat basket sans t'appeler. Forcément, on va avoir besoin de toi dans quelques instants. L'énorme coup d'arrêt pour Victor Wembanyama, blessé et forfait jusqu'à la fin de la saison régulière. Cette blessure, est-ce que ça gâche sa saison? 11h30, le dossier des GG autour de Kylian Mbappé, le propriétaire de club. Pour la première fois qu'il a racheté 80% du stade Malherbe de Caen, et bien l'international français est allé remonter le moral des troupes en Normandie, joueur et propriétaire. Est-ce incompatible? On se posera la question. Et puis 11h45, le débat caché. Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. C'est la première fois, évidemment, Fred, que tu vas te frotter au débat caché. Tu es dans le noir total. Mais j'attends de vous une proposition comme ça, un petit sentiment. D'après vous, c'est quoi le débat caché?
Alors moi, je t'avais fait une proposition cette semaine. J'ai vu qu'elle n'avait pas été retenue. Mais je me demande si ça va pas être ça. Je sais pas si vous avez entendu parler des Enhanced Games, les jeux stéroïdes qui bénéficient actuellement de la promotion du fils Trump. C'est-à-dire que c'est des jeux où il y aura aucun contrôle antidopage et les mecs vont pouvoir se charger comme des brutes et il y aura $1 million pour celui qui battra un record. Et je pense que avec Trump aux manettes, eh bien on risque malheureusement
de voir
ce genre de choses.
Ok, Marc Madiot.
Ah, moi j'avais pensé à un Grand Prix de France à Paris. Pour faire plaisir à Madame Hidalgo, organisé par Flavio Briatore.
Ah, t'arrives à le replacer ton Flavio.
J'aime bien, j'adore.
Il boucle la boucle, ok. Simon Dutin.
Le petit débat, tu sais, sur le retrait de Martin Fourcade, la nomination de Edgar Gros-Piron pour piloter l'organisation des Jeux d'hiver 2030. Renaud Muselier, Laurent Wauquiez, tout ça. Est-ce que les politiques ont pris trop d'importance dans cette histoire?
Très bien, Le Canu, pardonne-moi.
Justement, je passe la balle à Fred Weiss parce que là, je découvre les contenus. Alors, tout m'intéresse, mais je suis incapable de vous dire. Moi, je pense que les trois sont bien.
Okay.
Voilà, c'est déjà un avis tranché. Je prends des risques.
On verra dans quelques instants. C'est à 11h45. Le débat caché. Vous adorez cette séquence.
Ça fait peur.
Et j'aime bien jouer avec les GG, évidemment. Mais tout de suite, Victor Wembanyama.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde. Let me pull up three. You bet. Welcome
back. Qui raconte l'histoire de LeBron James ou
les mecs à 5 heures du matin
qui sont au stade. Les mecs à 5 heures du matin. Wembanyama. De Wembanyama. Wembanyama.
Ok, laisse tomber.
C'est bon.
Personnel, merci.
C'est bon. Wemby fires. And he hits another three.
Courtois. He's 3 for 6. Wembanyama. Oh merde.
Allez, pardonnez-moi. Victor Wembanyama, un petit peu fatigué ce matin.
Ok.
Ah, c'est bien de se moquer des copains, mais.
Wemby, quoi.
Quand je pense à la pige que va perdre Maxime Abolin pour avoir fait cette production. Après la cuisse de Zidane, la fracture maxillo-zygomatique de Dupont, la fracture du nez d'Mbappé, voici la thrombose veineuse profonde de Victor Wembanyama. Jeudi, l'annonce est tombée comme un coup de tonnerre. Le génie français est forfait jusqu'à la fin de la saison régulière. Autant dire jusqu'à la fin de la saison. Les playoffs, donc, c'est quasi mort. Le titre de meilleur défenseur de l'année, ça, c'est mort. C'est un énorme coup d'arrêt dans la carrière programmée de Victor Wembanyama. Ironie de l'histoire, ce problème a été découvert juste après avoir découvert le grand monde au retour du All-Star Game. La musique qui fout les jetons. Et cette question, il a fait deux tiers de la saison absolument exceptionnelle. Mais notre question, est-ce que sa blessure gâche sa saison? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Non, ça gâche sa fin de saison, mais pas sa saison entière.
Ok, pas sa saison. Marc Madio.
Oui, ça gâche parce qu'il n'a pas été jusqu'au bout.
Fred Le Canut.
Ah oui, ça gâche sa saison et sa carrière.
Carrément, ok. Simon Dutin.
Non, pas du
non.
tout.
Non. Fred Weiss.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Maria Azé, qui suit ce dossier cette semaine. Salut Maria.
Salut JC, salut à tous.
Alors on l'a dit, évidemment, c'est un énorme coup dur pour tout le monde, pour lui tout d'abord, pour les Spurs, pour l'équipe de France.
Oui, fin de saison pour le géant français. Alors un petit point médical pour commencer. Une thrombose, concrètement, c'est une phlébite, un caillot de sang qui se forme dans une veine qui bloque la circulation sanguine. Alors ça arrive assez régulièrement, je ne sais pas si Fred pourra le confirmer, mais dans le basket, à force de lever le bras, car les veines sont dans un endroit assez étroit, donc ça a tendance à se boucher assez régulièrement. Cette blessure, elle va éloigner Wemby des terrains pour au moins toute la fin de saison régulière. Alors, on a posé la question de la gravité du problème au docteur Didier Fontes, spécialisé en traumatologie.
C'est problématique si le caillot n'est pas évacué. Là, j'imagine qu'il commence par un traitement médical, un anticoagulant, pour essayer de fluidifier et de résorber cette thrombose. Il arrive que parfois, on n'y arrive pas et qu'il y ait une nécessité d'intervention chirurgicale pour aller enlever le caillot, quoi.
Alors, le plus important, c'est d'éviter que le caillot aille dans la veine cave et rejoigne les poumons, ce qui créerait une embolie pulmonaire. C'est l'artère pulmonaire qui est bouchée, donc assez grave. On n'en est pas là pour Victor Wembanyama, qui a été pris en charge. Attends. Alors souvent on traite le caillot par des anticoagulants, le disait le médecin, mais ça empêche les sportifs de pratiquer des sports de contact pendant quelques mois, d'où l'absence de Victor Wembanyama. Alors forcément cette absence, elle n'arrange pas trop son équipe qui se battait pour accrocher le play-in, les barrages pour aller en play-off. Les Spurs sont actuellement 12e à 4 ou 5 victoires du play-in. Il faut finir entre 7 et 10e. Il reste 28 matchs à jouer. Ils ont perdu la nuit dernière. Bref, c'est pas gagné pour San Antonio. Tu le disais, JC, le Français a aussi fait une croix sur le trophée de meilleur défenseur de l'année, puisqu'il ne disputera pas assez de matchs pour y prétendre. Alors, quand est-ce que Victor Wembanyama reviendra, sachant qu'il y a la grosse échéance de l'Euro avec l'équipe de France qui commence le 27 août cet été? Du côté des Spurs, on est confiant pour un retour la saison prochaine. Le chirurgien Didier Fontes, lui, pense que c'est quand même possible pour cet été.
Ils vont recontrôler la perméabilité de sa veine. Il va reprendre les entraînements. Puis je vous dis, même s'il était dans une optique péjorative, c'est-à-dire de devoir faire réaliser une intervention chirurgicale, bon, il devrait être sur pied pour l'été prochain. Hein.
Voilà, la question, c'est est-ce que les Spurs prendront le risque de l'envoyer jouer l'Euro après sa blessure? Ça reste à voir.
Merci beaucoup Maria Azé pour toutes ces précisions. Est-ce que cette blessure gâche sa saison? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Fred, ça m'a interpellé, ça gâche même sa carrière.
Ben oui, parce qu'on parle de blessure, mais c'est pas une blessure, une thrombose. C'est une pathologie qui peut amener une maladie. Donc à un moment donné, là où je suis surpris sur le débat, c'est quand tu te fais un ligament croisé, quand tu te fais une cheville, quand tu te fais une épaule, tu sais que t'en as pour 6 semaines, tu sais que c'est réglé, et qu'à un moment donné, t'as un début de problème et une fin de problème. Là, c'est quoi? C'est un caillot. Et donc on nous explique qu'effectivement, il y a différentes techniques pour l'enlever. Bon, déjà la technique d'avoir une fluidification du sang, de le rendre plus fluide et tout, ça t'empêche de jouer, parce que si jamais tu prends des hématomes à ce moment-là, des anticoagulants donc ça veut dire que l'effet secondaire du traitement fait que déjà ça t'empêche de jouer. Et puis surtout, ce caillot, il est là. Il ne peut ne plus être là, mais qui, malheureusement, et je lui souhaite vraiment pas, qui peut te dire s'il va pas revenir? C'est-à-dire, quelle est la cause de la création de ce caillot? Ça veut dire que, de toute façon, toute sa vie...
Ça va lui pourrir sa carrière.
Bah, pour moi, c'est un problème qui va être récurrent toute sa vie. Alors, peut-être qu'il ne va jamais retrouver, et je lui souhaite de tout mon cœur, ce type de problème, mais je pense qu'il y a quand même un peu de jurisprudence sur des cas où il y a des garçons qui ont dû arrêter leur carrière parce qu'à un moment donné, on n'arrive pas à contrôler cette création de caillot. Si c'est le cas, vous avez parlé tout à l'heure des possibles effets secondaires. Alors, le traitement, oui, mais aussi ce qui peut arriver au niveau des poumons, au niveau de choses comme ça. Donc, c'est quelque chose de très grave potentiellement, qu'il faut pas prendre à la légère et qui va amener un suivi toute sa vie. Donc, je lui souhaite très honnêtement que ça soit juste un cas comme ça, que ça soit traité. Mais pour moi, c'est pas une blessure. C'est une pathologie. Et cette pathologie, il faut la suivre. Et donc, il va être forcément orienté sur le contrôle de ça.
Ok, donc on peut être inquiet. En tout cas,
vigilant
sur la suite de la carrière de Victor Wembanyama.
Ah, tu nous as refroidi, là.
Fred Veil,
je suis désolé parce qu'on n'en était pas à cette inquiétude.
Fred, il connaît bien parce que les basketteurs, comme ils ont des gabarits hors normes, ils sont plus assujettis à ce type de choses-là. Donc, je suis sûr que Fred, il a une réponse qui va peut-être nous rassurer.
Fred.
Oui, alors effectivement, ça arrive de temps en temps dans le basket. Il y a plusieurs cas et effectivement, on n'a aucune certitude quant au fait que ça soit le cas positif et que dans son cas précis, il puisse reprendre. Il y a des basketteurs qui ont repris, il y a des basketteurs qui ont été obligés d'arrêter leur carrière. Je suis complètement d'accord. Sauf que là, on parle d'un cas isolé. Les médecins de San Antonio sont parmi les meilleurs de la NBA. Donc honnêtement, ils prendront pas de risques et ils sauront exactement ce qu'il faut faire. Je comprends l'inquiétude de Fred, vraiment, parce que quand premièrement, dès que j'ai lu les symptômes et ce qu'il avait exactement, j'ai eu peur. Et je me suis inquiété pour lui, évidemment. Mais concrètement, je pense qu'on est réellement sur un cas isolé, comme je le disais tout à l'heure, et que j'ai pas trop d'inquiétude pour la suite de sa carrière. Il sera peut-être suivi, oui, mais autant être suivi en NBA, parce que concrètement, les staffs médicaux sont plutôt top.
Ok, ça c'est pour le point médical. Revenons à notre débat. Est-ce que ça gâche sa saison qui était jusque-là magnifique, Marc?
À partir du moment où tu joues pas et que t'es pas dans la compétition, ça gâche forcément la fin de saison. C'est inéluctable. Maintenant, je suis un peu inquiet avec ce que tu viens de nous dire, Fred, mais en cyclisme, on a connu un peu les mêmes problèmes avec l'artère iliaque. À une époque, il y avait des coureurs, j'ai connu les débuts de cette découverte, il y avait des coureurs qui avaient des problèmes même de circulation du sang dans certaines jambes. C'est-à-dire qu'ils avaient une jambe fatiguée et l'autre pas. Et c'est le professeur Chevalier qui, à Angers, avait mis en évidence le problème de l'artère iliaque. En fait, à force de faire du vélo, on provoquait... un coude ou un rétrécissement au niveau de l'artère iliaque. Et les premiers coureurs qui ont été opérés, ça a été par le professeur Chevalier à Angers, et c'est des coureurs de l'équipe Renault Elf de l'époque qui ont eu cette première intervention, et depuis c'est devenu une maladie ou une blessure, appelez ça comme vous voulez, banale. Alors qu'à l'époque, c'était quelque chose d'irréversible, parce qu'on disait, il a l'artère bouchée, il peut plus faire de vélo. Et il y a des coureurs qui ont mis un terme à leur carrière sans savoir vraiment ce qu'ils avaient et n'ont pas pu reprendre leur compétition. Depuis, on règle ce problème en quelques mois. Alors c'est pas toujours facile à identifier, ça prend du temps, mais en général aujourd'hui, on est capable de remettre sur pied, et fort heureusement, un coureur cycliste. Alors je transpose un peu par rapport au basket, et je pense qu'on est un peu dans la même situation, et le corps médical aujourd'hui me semble suffisamment armé et avoir suffisamment d'expérience pour régler et réguler cette situation.
Bon, ok, on était dans l'urgence, on va revenir dans les grandes gueules du sport, on va revenir à la base.
Il veut pas qu'on parle de médecine, ça l'intéresse.
Non,
peur.
Et je sais pas, vous êtes des professeurs, des copains, mettez la blouse sinon. Simon, recadre-moi tout ça. Là.
Oui, évidemment, si on en est à se demander si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, bon, évidemment que c'est une mauvaise nouvelle, on aurait tous préféré le voir sur les parquets et lui le premier. Cela étant dit, je pense que loin de gâcher sa saison, ça va la figer dans l'histoire. Parce qu'elle est d'ores et déjà historique. On parle souvent, c'est un poncif dans notre business, de la saison de la confirmation. Il a déjà répondu à toutes les attentes. C'était une performance pour sa saison rookie. Et là, sa deuxième saison, il a réussi à faire progresser plus qu'on pouvait l'espérer. Une franchise qui en avait sacrément besoin. Il se comporte déjà comme un papa dans une équipe où pourtant il y en a déjà un, Chris Paul, qui les a rejoints à l'intersaison. Il a réalisé des performances statistiques. On sait à quel point c'est important aux États-Unis, d'ores et déjà légendaire. Là, je parle sous le contrôle de Big Fred. Il a fait un match à ce que les Américains appellent 5x5, que tu vois mais rarement dans l'histoire. C'est au moins 5 unités dans toutes les catégories statistiques qui sont prises en compte. Les points, les rebonds, les contres, les interceptions, et j'en oublie, les passes décisives. Il a fait le premier triple-double avec 10 contres. Tu sais, triple-double, c'est 10 unités dans 3 catégories statistiques, sauf que généralement, c'est justement les points, les passes décisives, les rebonds. Lui, il l'a fait avec des comptes. C'est absolument monstrueux. Souvent, quand t'es un contreur, t'es pas un scoreur. Lui, il a tout. Il regarde toutes les stars, les mecs, les futurs Hall of Famers, ceux qui seront au panthéon de ce jeu, dans les yeux. Il obsède les médias américain. Et encore une fois, avec alors là, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais en interrompant sa saison, Maria en parlait. Il y a cette espèce, cet objectif de se qualifier in extremis pour les playoffs. Bon, et ben voilà, il met fin à un espèce de suspense. Peut-être que s'ils avaient raté la qualification pour les playoffs, on aurait pu lui mettre ça sur le dos parce que, ben, en instruisant un peu ses performances, on serait dit ah, il a baissé de régime, il est moins bien, machin. Bon, bah là, on se dira, et voilà, sans la blessure,
C'est ce que tu veux nous dire. Mais tout de même, il était programmé pour emmener cette équipe à la deuxième saison en play-off, c'était l'objectif, pour terminer meilleur défenseur de l'année, et là, tout s'est coulé.
Non, il était programmé pour améliorer le bilan entre victoire
et. C'est pas gagné, hein, qui se qualifie pour les play-offs.
Ah non, de façon,
bah
non,
là, c'est mort.
C'est mort avec sa blessure. Mais Fred, même avec Victor au sommet, là, ils avaient quand même accumulé pas mal de défaites ces derniers temps, les Spurs.
Oui, quoi qu'il arrive, ça aurait été compliqué pour eux. Ouais. Franchement, ils étaient loin d'être favoris pour être, même pas dans les playoffs, dans les play-in, parce que on sait que de 8 à 10, il y a un mini tournoi avant pour se qualifier pour les playoffs, justement.
Ah,
et ils étaient pas du tout dans ça. Donc, à partir de là, c'était très compliqué. Et je pense qu'ils y seraient pas arrivés, hein.
Mais Fred, est-ce que c'est raté sa saison quand il n'a pas de titre à la fin? Je parle de pas de titre individuel. L'année dernière, il était Rookie of the Year. Là, il aura rien.
Bah là, il a été All-Star. C'est une progression par rapport à l'année dernière.
C'est ce que j'allais dire. Il a été All-Star. Il a fait les deux tiers de la saison. Il a montré plein de choses. Je pensais pas un jour le dire, hein, mais je suis d'accord avec Simon. Il fait des choses incroyables cette saison.
Il fait
des choses que personne n'avait jamais vues. Et objectivement, il a été parfait. Lui, il était parfait. Alors, son équipe, pas tout à fait, même si il y a eu une période où ils ont très bien joué. Lui, il a été parfait. Et j'ai envie de dire, peut-être que c'est un mal pour un bien, parce que comme ils ne feront pas les playoffs, c'est sûr, et même pas les play-in, à un moment, ils vont peut-être avoir un tour de draft encore plus intéressant que ce qu'ils auraient dû avoir au départ.
Ah ouais.
Et ça veut dire qu'ils vont encore renforcer leur équipe.
Donc c'est une bonne nouvelle, je dirais pas jusqu'à une bonne nouvelle,
parce que je suis pas sûr que c'est ce qu'on pense du côté de Saint-Etienne et du côté de l'équipe de France non plus, mais c'est pas une si mauvaise nouvelle que ça peut-être.
Fred, une équipe de NBA qui se qualifie pour les playoffs en termes financiers, c'est le jackpot ou non?
Bon. Non, pas du tout.
D'accord.
Il y a pas d'incitation particulière.
C'est pas comme la Ligue des Champions, quoi.
Aller au titre. Non, mais en fait, t'as un peu de rentrée d'argent parce que tu fais des matchs à domicile et que tu rends de l'argent, mais il n'y a pas
de blé dans cette ligue, de toute façon, c'est bien.
Non.
Il n'y a pas d'argent.
C'est des philanthropes. Il y a Kevin qui nous appelle, qui n'est pas du tout d'accord avec vous. Kevin qui nous appelle au 32-16. Salut Kevin.
Salut les grandes gueules.
Pour toi, ça gâche totalement sa saison.
Ouais, pour moi, c'est vraiment un gros coup d'arrêt. Donc, on a parlé un peu des titres individuels et on sait que Victor Wembanyama va marquer l'histoire de son sport et qu'à la fin de sa carrière, on regardera le nombre notamment de Deep Boy, donc de meilleur défenseur de l'année qu'il aura. Il était aussi sur les tablettes pour les All NBA Team, peut-être la All NBA Third Team, voire peut-être la Second Team. Donc, c'est qui récompense les 15 meilleurs joueurs de l'NBA. Donc, tout ça, c'est des lignes qu'il aura pas à la fin de sa carrière sur son palmarès. Et moi, je trouve que ce qui me dérange le plus dans cette blessure, et ce qui est le plus embêtant à mon avis, c'est qu'ils vont perdre du temps dans le projet, j'irais la phase 3 du projet Spurs. En gros, il y a eu le début, c'était découvrir la NBA. Là, on était sur gagner quelques matchs. Et puis, l'année prochaine, ça va être clairement de gagner les playoffs. Et les Spurs ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire dans l'histoire de la franchise. Ils ont fait un trade pour récupérer De'Aaron Fox, qui est un des 5 ou 6 meilleurs meneurs de la NBA. Pour épauler justement Victor Wembanyama et l'objectif de cette fin de saison, c'était de commencer à apprendre à jouer aussi ensemble de ce projet-là pour gagner du temps aussi sur la saison 2025-2026. Et là, mine de rien, ils vont perdre une demi-saison aussi dans ce projet-là. Et puis pour finir, moi, je suis pas forcément d'accord avec Fred sur le fait que les play-ins n'étaient pas atteignables. Alors certes, il y a 4 matchs de retard sur la 10e place, qui est la dernière place qualificative, mais les deux équipes devant, c'est Phoenix et Sacramento, qui sont deux équipes sacrément malades aussi en ce moment. Avec Sacramento qui a fait n'importe quoi au niveau des trades sur la trade deadline, là, avec en mettant quasiment que des joueurs qui ont le même gabarit et qui enchaînent les défaites, et puis les Suns qui sont complètement perdus et donc avec une belle série de victoires, ce qui n'était pas impossible avec De'Aaron Fox, ça pouvait accrocher le play-in et donc cocher une case supplémentaire dans le projet et gagner du temps sur le projet.
Alors Fred, je veux bien que tu répondes, Fred Veil, je veux bien que tu répondes là-dessus, mais aussi je voudrais t'interroger sur l'équipe de France, parce qu'hier soir il y a eu cette belle victoire en Croatie, les Bleus sont qualifiés pour l'Euro 2020. 2025. Mais l'euro avec Wembanyama, est-ce que tu y crois? Ou est-ce que les Spurs ne vont jamais le libérer maintenant?
Honnêtement, j'ai du mal à y croire. Je pense que c'est prématuré. Et en même temps, je pense qu'ils veulent l'avoir à 200% pour le début de saison prochaine. Donc, à mon avis, ils prendront pas. Après, je peux me tromper parce qu'on a quand même une très bonne relation, l'équipe de France et San Antonio par rapport à ça. Mais honnêtement, je pense que ce serait prendre un risque inutile. Je vois mal comment ils feraient pour l'envoyer en équipe de France. Et pour répondre un petit peu à l'auditeur, il a pas complètement tort. C'était pas inatteignable d'être en play-in, mais ça me paraissait compliqué parce que 4 matchs, alors qu'on est aux 2/3 de la saison, ça me paraissait compliqué. Et je trouve que ça dure de dire que toute une saison est remise en cause sous prétexte que t'es blessé à un instant T. Il a été, en fait, à l'instant T, il est All-Star. Donc, c'est quand même, il fait partie des meilleurs joueurs de la NBA. Et donc, pour moi, il a quand même réussi sa saison. Alors oui, évidemment, dans un monde parfait, j'aurais préféré qu'il finisse sa saison, qu'il soit meilleur défenseur, qu'il soit dans une des meilleures équipes. Sauf que c'est pas possible parce qu'il est blessé. Mais ça n'entache en rien ce qu'il a fait jusque là. Et, on l'a dit plusieurs fois dans cette émission, il est en avance sur tous les standards de toutes les grosses superstars. Donc, attention, prenons le temps, relativisons. On aurait préféré que ça n'arrive pas, évidemment, mais c'est pas pour autant qu'il faut tout jeter.
Et puis, juste avec tout le respect que j'ai pour le professeur Fontes, on sait que nos reporters vont interroger les meilleurs. Si aux Spurs, on leur dit non, mais si, il est en forme et tout, ils vont se claquer une bonne barre, les assureurs des Spurs, en disant oui, c'est ça, oui, c'est ça. Mais vous pouvez toujours courir avant qu'on vous l'envoie en équipe de France.
Merci Kevin d'avoir été avec nous au 32-16. Merci Fred Weiss d'avoir pris le temps ce matin près des pistes de ski pour nous répondre. C'était important de t'écouter sur Victor Wembanyama. Et on te dit à la semaine prochaine. Merci Maria Azé pour ce point très précis. On se retrouve dans quelques instants pour le dossier des GG. On va filer à Caen, en Normandie, voilà, loin des États-Unis, parce que Kylian Mbappé est parti voir ses employés. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche jusqu'à midi avec ce matin Fred Lecadu, notre judoka Marc Madiot, évidemment notre patron d'équipe cycliste la Groupama FDJ, et puis nos éditorialistes Christophe Cessieux et Simon Dutin dans 10 minutes. Mes GG, j'espère que vous avez bien révisé. Ah ben non, vous n'avez pas le droit parce que c'est le débat caché. Oui, le fameux débat caché. Vous êtes dans le noir et pourtant je vais vous proposer une thématique. Et il va falloir me répondre, évidemment, vous écharper. Mais tout de suite, on va parler de Kiki à Caen.
RMC, le dossier des GG.
Mercredi, Kylian Mbappé avait enfilé sa casquette de héros du Real Madrid en marquant, vous le savez, un triplé face à Manchester City. Jeudi, l'international français a enfilé sa casquette de propriétaire de club pour une visite surprise à Caen, club qu'il a racheté à 80% l'été dernier. C'est la première fois qu'Mbappé vient saluer ses ouailles. Il faut dire que la situation est catastrophique à Caen. Lanterne rouge de Ligue 2, 9 défaites de suite, un énième changement d'entraîneur. Cette fois-ci, c'est Michel Derzakarian qui prend la suite. On va retrouver notre correspondant, justement, en Normandie, c'est Christophe Lécuy. Salut Christophe.
Salut Jean-Christophe, bonjour à tous.
Alors Kylian Mbappé est donc venu montrer qu'il était vraiment concerné par son club, totalement investi.
Oui, alors il faut préciser quand même que l'avenue de Kylian Mbappé jeudi n'avait pas du tout été annoncée par le club, elle devait même rester secrète. Sauf que jeudi, c'était aussi le jour de la présentation du nouvel entraîneur Michel Derzakarian, troisième entraîneur du club cette saison. Alors évidemment, la discrétion a été plus difficile à préserver. Les capitaines des Bleus a racheté le club normand l'été dernier, hein, tu le disais, moyennant environ 20 millions d'euros. Il possède aujourd'hui 80% des parts du club, les autres 20% revenant à Pierre-Antoine Capton, l'actionnaire normand déjà en place. Le projet est porté par Faïza Lamari, la maman de Kylian Mbappé, et le président du club n'est autre que Ziad Hamoud, qui gère la société d'image du joueur. Mais le patron, le propriétaire, c'est bien Kylian Mbappé. Alors autant dire que sa première venue à Caen était très attendue par les salariés du club et les supporters, mais lui-même attendait ce moment avec impatience. Écoutez.
Je voulais venir bien avant, mais c'était pas possible. Être au contact des joueurs, du staff, des salariés, que les gens savent à quel point ça compte pour moi d'être ici et que le club a une place importante pour moi. Donc c'était important d'apporter mon soutien encore plus dans la situation actuelle. Je pense que c'était tout à fait naturel de venir aujourd'hui.
Une visite menée au pas de charge. Kylian Mbappé a passé à peine 4 heures sur place jeudi après-midi, le temps d'échanger avec le staff et les joueurs, de rencontrer l'ensemble du personnel du club, de faire quelques selfies avec les supporters, mais aussi de s'entretenir avec le maire de Caen. Aristide Olivier a apprécié la démarche, qui plus est dans ce contexte.
Il ne serait pas venu, on lui aurait reproché de ne pas être venu à Caen. Et je pense que le discours était aussi un discours d'apaisement dans un contexte de crise. Ça faisait du bien, je pense, aux joueurs et au staff qui viennent. Et voilà, je leur remercie d'être venu aujourd'hui à Caen.
Kylian Mbappé est tout sauf un propriétaire désintéressé de la situation sportive. C'est ce qu'il nous a assuré. Alors que son club est dans une situation critique, il ne manque quasiment aucun match du Stade Malherbe.
Je suis tous les matchs que je peux regarder, je le regarde. Je peux vous débriefer n'importe quel match, vous dire qu'on a perdu les derniers matchs sur des détails. L'équipe manque de confiance, mais elle n'est pas résignée. Le problème, c'est qu'on a pris des buts sur des momentum. Je pense que notamment à Annecy, on prend un but avant la mi-temps. Je pense à Dunkerque où on prend un carton rouge à la 35e, où on commençait bien le match. C'est des choses qui arrivent quand on n'est pas en confiance. Et je pense qu'une victoire va changer pas mal de choses et peut changer la spirale de l'équipe.
Eh bien justement, on reste maintenant à savoir si la venue de Kylian Mbappé aura créé le choc psychologique tant attendu. Élément de réponse cet après-midi, puisque Caen, dernier de Ligue 2, reçoit Pau tout à l'heure à 14h. Un match que Kylian Mbappé, qui jouera demain avec le Real, pourra donc suivre depuis l'Espagne.
Merci beaucoup Christophe Lécuyer pour ces précisions. Tu peux rester avec nous pour ce débat. Je voulais vous proposer, évidemment, ça a été l'une des informations de la semaine, cette venue qui n'est pas passée inaperçue donc de Kylian Mbappé à Caen, joueur et propriétaire. Est-ce incompatible ? C'est notre débat dans les grandes gueules du sport ce matin. Est-ce incompatible ? Oui ou non ? Christophe Cessieux ?
Non.
Non. Je pense pas. Marc Madiot ?
Ça n'est pas compatible.
Ça n'est pas compatible, ok. Simon Dutin ?
Oui, c'est incompatible.
Oui, c'est incompatible, c'est donc la même réponse.
Complètement incompatible.
Complètement incompatible, oui, ok. Marc Madiot, ouais. Je sens que tu es chaud sur le sujet.
Oui. J'ai bien écouté ce qu'a dit Kylian Mbappé dans l'interview que vous avez passée. Et... je pense qu'il s'est mis dans un bourbier. Quand on est propriétaire d'un club, et la première chose qu'il dit, ça n'était pas possible de venir avant, tout est dit. C'est fini, c'est mort. Quand vous êtes propriétaire d'un club ou patron d'une équipe, vous devez être présent à tout moment. Il a un métier, Kylian Mbappé. Il est joueur de foot, il n'est pas
tu
président
crois que
de club.
Le,
il est
le,
pas...
le,
mais non, mais à un moment, tout président de club...
McCourt, il est là souvent à Marseille.
L'émir
du Qatar, il est là.
Il y a un patron dans le club. Il y a un patron sur le terrain.
Il y a un patron.
Ils sont pas. Mbappé incarne le club. Il a acheté le club. Tous les médias disent Mbappé est propriétaire du club. Il est le patron du club. Le patron du club, ça peut être, il peut y avoir une délégation de pouvoir entre un actionnaire et un patron sur le lieu de travail. Mais le patron du club doit être présent au quotidien. Le patron, qui n'est pas forcément le propriétaire, doit être présent au quotidien. Moi, je suis pas propriétaire de mon équipe cycliste, mais je suis présent au quotidien. Si demain, je passe mon temps à juste regarder les matchs ou les courses à la télévision, je ne suis pas présent. Et le problème d'Mbappé, c'est qu'il n'est pas présent au quotidien. Il n'est pas dans le vestiaire. C'est la première fois qu'il se déplace à Caen. C'est mort. Il s'est mis dans un bourbier.
Mais... non mais c'est là, bon là je suis tout à fait sur la ligne de marque. C'est quand même ok, McCourt il est pas là tous les jours, ok, Textor il est pas là tous les jours, mais lui il a attendu 6 mois avant de pouvoir venir rencontrer ses salariés. C'est compliqué quand même de venir expliquer la vie à tes salariés
plus,
quand
tu es
là, quand t'es là une fois par an, quand t'as pas de place dans ton planning. Alors oui, c'est son entourage qui est censé avoir les mains dans la caisse à outils au quotidien. Non, c'est pas lui.
Il y a un président.
C'est pas lui qui est sur le terrain. D'ailleurs, c'est
surtout sa mère qui gère les affaires.
Oui, bah, c'est ce que je te dis. D'accord, mais bon, c'est quand même Kylian Mbappé, le phare, c'est de lui dont on parle.
Il est actionnaire, lui.
Et bah, dans ce cas-là, tu viens pas du tout. Mais si c'est pas, vraiment toi, le patron opérationnel. Mais moi, je me mets à la place des salariés du club qui voient Mbappé débarquer donc au bout de 6 mois. Certes, il n'est pas responsable, mais c'est vrai que dans l'interview, je trouve qu'il se voile un peu la face. T'as 10 défaites consécutives ou je sais pas combien. Il t'explique que c'est des questions de momentum, machin. Bon, les mecs, les spécialistes de Ligue 2, ils t'expliquent non, c'est pas des questions de momentum. Entre-temps, t'as changé 2 fois d'entraîneur. C'est un carnage absolu. Bon, c'est compliqué, je trouve. Et puis Mbappé, il a tout le temps. Ok, il a beaucoup d'argent certainement à investir, mais il a tout le temps. Il a 25 ans. Qu'est-ce qu'il va s'emmerder là Alors, moi, je pense que c'est la suite, du narratif qui s'est construit pour sa carrière, quoi. À la LeBron James qui a investi à Liverpool, tu vois, faire la jointure entre le sport business des États-Unis et puis lui, sa carrière, laisser une trace. Il veut tout faire un petit peu trop vite à l'image de son début de carrière, mais je pense que c'est ni bon pour le Stade Malherbe, ni bon pour lui. Il a que des coups à prendre dans cette histoire.
Ok, personne n'est là, évidemment. On n'est pas en train de vouloir tomber un joueur peut devenir propriétaire aussi, si c'est pas aussi une accumulation de fonctions qui risque d'être compliquée pour lui.
C'est pas forcément de compliquer la vie.
Pour toi, Chris, non, pas forcément.
Non, mais je vois pas pourquoi ce serait incompatible. Alors, j'avais pas pensé je m'étais pas mis dans la situation du club. Effectivement, est-ce que un propriétaire, un actionnaire doit être là au quotidien? Moi, j'en suis pas persuadé. Et je pense qu'il doit être là quand ça va pas pour venir remotiver les troupes, rebooster tout ça. C'est ce qu'il a fait cette semaine. On va voir si ça aura un effet ou non. C'est lui qui décide de changer d'entraîneur et de mettre Dazakarian à la place. Bon, en l'occurrence, là, il fait le job. Après, pour lui, je trouve pas que ce soit incompatible. D'abord parce que le Real, le club dans lequel il joue, et quand joue, boxe pas dans la même catégorie. Je pense que les deux clubs ne se rencontreront jamais. Ce qu'il y a pas, enfin, il y a eu un problème avec un autre joueur là ces derniers temps.
C'était Seko Fofana, qui était actionnaire du club, ouais, mais actionnaire largement minoritaire. Lui, il a 80% du club. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est pas trop.
Après, je pense pas que ça va beaucoup empiéter sur son temps de préparation, son temps de repos et tout ça. Et...
C'est bien. Ah bah, visiblement, non.
C'est bien le problème que ça n'empiète pas. Il faudrait. Enfin, je sais pas.
Ah ouais, ouais.
C'est normal. Non, mais qu'il n'ait pas de temps
à consacrer. Je me positionnais dans la peau de Kylian Mbappé. Est-ce que c'est incompatible pour lui? Vous vous positionnez dans la peau du Stade Malherbe de Caen. Est-ce que c'est incompatible pour ce club d'être géré par une star du foot?
Il n'est pas géré par la star. C'est bien ça le problème.
Mais alors, on va pas être d'accord parce qu'on prend pas le truc par le même bout de la lorgnette. Donc j'ai rien à vous dire si vous pensez que c'est pas gérable pour le Stade Malherbe, ben tant mieux, tant pis pour le Stade Malherbe. Non, moi je vous dis juste qu'aujourd'hui, je préfère que Kylian investisse dans le football plutôt que dans une chaîne de spa, dans la crypto-monnaie ou dans un truc immobilier.
Voilà, il aime le foot, il s'investit, il amène des solutions à l'expertise.
Quoi?
À partir du moment où ça amène de l'expertise et que ça amène de l'évolution, parce que
je comprends
sur la partie de l'idée de développer le sport, mais là la difficulté c'est que le club il est en grande difficulté. T'as comparé à d'autres clubs. Quand t'as des très grands clubs qui fonctionnent avec des systèmes qui sont déjà placés, et c'est vrai que tu peux prendre peut-être un peu de distance sur l'incarnation, mais là le club il est en crise. Et à un moment donné, l'image, ça suffira pas de faire les selfies. Moi, le mot qui m'a un petit peu gêné, comme tu disais tout à l'heure, Marc, c'est je viens en soutien. Et c'est pas que du soutien dont on a besoin. C'est une articulation, c'est une incarnation, c'est un métier. On parle de sport pro. Quel est le métier qui correspond? Quel est le volume horaire? Quels sont les objectifs? Et tu vois, j'ai un peu l'impression de ce que disait Simon, c'est-à-dire, ouais, on est à un côté où on investit partout. On est un peu comme Icar qui veut toucher le soleil, quoi. C'est pas une partie de PlayStation. On joue pas à Caen à distance avec une manette, tu vois. À un moment donné, il faut être sur le terrain, il faut emmener les gens. Et puis la petite dame de la cantine,
elle est
peut-être en souffrance, il y a peut-être des contrats. C'est de l'humain, là. Et je pense que, sans manquer de respect à Kylian Mbappé, c'est peut-être aussi la prise en compte que c'est pas que d'être à distance, c'est pas du télétravail, le truc. C'est faut avoir les gens, faut les toucher, faut leur parler dans un espace à Caen où il y a des attendus, il y a déjà un historique et il y a une crise. Et il y a une crise, donc il faut les voir, il faut leur parler, mais il faut aussi structurer.
Il y a autre chose, il a une telle renommée, Mbappé, c'est une icône. Donc, à partir du moment où il est l'icône et qu'il devient propriétaire du club, il est normal et humain, comme tu l'as dit, que tout le monde se tourne vers lui. On n'est pas dans un actionnaire traditionnel.
Justement, vous pensez pas que de par son influence, de par ses connaissances,
oui, mais le problème c'est qu'il n'est pas là pour les mettre.
Il peut arriver à faire des choses avec
son
club.
Parce qu'il n'est pas là. Il a bien dit.
Donc,
pas
Kylian Mbappé à la tête du Stade Malherbe de Caen, c'est la faillite assurée, quoi.
Non, mais ça donne de l'espoir.
Non.
Ça donne de l'espoir, mais ça suffit pas l'espoir. Il faut l'expertise. L'espoir, l'image, l'incarnation comme ça lointaine.
C'est déjà la présence.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des selfies. Il a partagé son image, qui donne du positif, qui donne de l'envie. Mais à un moment donné, si le problème il est plus profond que l'envie, il va bien falloir amener quelque chose de structurant. Et pour ça, je rejoins Marc. Il faut être au charbon.
Mais d'après ce que dit sa mère, elle dit.
Tu passes de Kylian à sa mère.
Oui, mais c'est elle qui gère son business, qui gère tous ses business. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, elle a expliqué à l'un de nos collaborateurs la semaine dernière que aujourd'hui, il y avait un président en place. C'est lui qui gérait le business. Kylian était actionnaire. Il met des sous. Et eux, pour l'instant, ils laissent faire les choses. Ils sont dans la position d'actionnaire. Et il y en a 50 000 des actionnaires dans tous les sports.
Oui, mais quand
tu es
Mbappé, l'actionnaire, c'est pas un actionnaire normal. T'es propriétaire.
Ouais.
Donc quand t'es propriétaire, forcément, on attend de toi un bilan et t'es exposé.
Et vous pensez que, à part dans les réunions de la Ligue, que Nasser soit très présent au quotidien.
Mais il est quand même, il incarne le club, il est présent dans le club.
Et ça tourne.
Il est là tous les jours.
La réaction du joueur de Caen. La réaction.
Quasiment.
Et les gars, la réaction du joueur de Caen au quotidien. Le joueur de Caen au quotidien.
Vous avez raison, j'abandonne.
Mais non, mais
on peut discuter.
On peut discuter.
Je ne discute pas avec vous.
On peut se parler. On peut se parler. Le joueur de Caen. Le laborieux joueur de Caen qui joue en Ligue 2, qui joue le maintien, il a envie d'avoir Kylian Mbappé au bord du terrain, à l'entraînement, de temps en temps,
mais c'est
et dans la vie du club, il dans le vestiaire du club.
Non, mais c'est vrai, c'est mieux qu'un fonds de pension arrive et mette des sous et demande des résultats. C'est vachement mieux.
Ça marche pas mieux.
Ah bah, c'est top.
Ah bah ouais.
Donc, votre vision du foot, c'est ça. C'est des fonds de pension qui
rachètent le club. Non, mais non, pas du tout.
On va avancer, on va aller loin.
Pas du tout.
Merci Christophe Lécuyer d'avoir été avec nous. Quand tu l'as dit, joue à 14h et tu seras avec nous aux commentaires, évidemment, de cette rencontre que l'on suivra sur RMC quand il est 18e. Donc, dernier de Ligue 1 avec 15 points. Avant, il y a Martigues avec 21 points. Et encore avant, il y a Clermont avec 25 points, 10 points d'avance. Clermont sur les Canets.
Ah, il arrive à la fumée des cires.
Ça risque, oui, d'être très compliqué. Et le club, s'il va en national, malheureusement, on ne sait pas s'il pourra s'en relever. 11h46, on se retrouve dans quelques instants pour le fameux débat caché.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h48, la dernière partie des grandes gueules du sport. Christophe Cessieux, Fred Le Canut, Simon Dutin, Marc Madiot à partir de midi, les Paris RMC. Et on s'intéressera notamment à une belle rencontre entre Lille et Monaco. C'est le top 4 qui se joue. On vous donnera les meilleures cotes. Mais tout de suite, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. Fred Le Canu, c'est impressionnant ce décorum, hein.
Ah oui, c'est ce alors le cri, là, vient de me vriller les tympans, là, je suis à fond, là.
C'est normal, c'est fait exprès, c'est pour vous mettre en condition. Il faut réagir sur l'émotion, sur l'instant T. Le débat caché du jour. C'est ça.
J'accuse ces Gaulois d'avoir bu de la potion magique qui les rend invincibles.
Mais toi, t'as rien pris, peut-être.
Ça n'a rien à voir, parce que moi, j'ai perdu.
Pourquoi cet extrait d'Astérix et Obélix ?
C'est pas l'histoire des compétitions où tout le monde est dopé, là ?
Sommes-nous vraiment étonnés ? Cette semaine, nous avons appris que le fils de Donald Trump Jr., a investi plusieurs millions de dollars dans un projet extrêmement controversé. On en avait déjà parlé dans cette émission, je vous résume, les Hansen Games, traduction les jeux améliorés, ce projet dévoilé en 2023 est présenté comme une compétition sportive mondiale sans contrôle antidopage, poussant à son paroxysme le culte évidemment de la performance. Voici ce que le fils Trump a déclaré. Ces jeux représentent l'avenir, une vraie compétition, une vraie liberté et de vrais records battus. Il s'agit d'excellence, d'innovation, de domination américaine sur la scène mondiale. Ces jeux vont être énormes et je ne pourrais pas être plus fier de soutenir ce mouvement qui est en train de changer le sport pour toujours. Et grâce à ce boost de la famille Trump, ces jeux pourraient voir le jour fin 2025, début 2026. Notre débat. Est-ce une catastrophe absolue pour le sport ? Ou non, ça va pas changer grand-chose. Est-ce une catastrophe pour le sport ? Oui ou non ? Marc Madiot.
J'ose espérer que ça va faire plouf.
Simon Dutin.
C'est un gadget, une opération commerciale. Ouais, non, c'est marrant.
Ok.
C'est pas vraiment du sport de haut niveau.
Bon. Ok. Christophe Cessieux.
Oui, c'est du marketing. C'est un truc à la Trump, quoi. C'est de la...
La poudre de perlimpinpin.
Ouais, la poudre aux yeux.
Ça, c'est l'expression de notre président Emmanuel Macron.
C'est une catastrophe de principe.
Une catastrophe de principe. Bah, vas-y, commence, Fred.
Une catastrophe de principe parce que le sport, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors, tu as du rêve. Ça, forcément, c'est quelque chose qui fait rêver, qui fait qu'on admire les champions, les championnes, on admire la performance. Et du rêve au spectacle, forcément, il y a déjà une dimension. Tu vois, on est toujours assujetti. On a besoin de spectacle pour faire venir le monde. On a besoin de spectacle pour faire rêver. Mais la limite de ce spectacle, c'est qu'une fois que tu l'as un peu instrumentalisé, une fois que tu le veux le dupliquer à chaque fois, eh bien, t'es obligé de booster, surbooster. Et tu as cette un peu volonté, parfois, de penser qu'il faut, il faut un peu charger la mule. Il y a une autre dimension, moi, à laquelle je suis très attaché, au-delà du rêve, c'est l'éducation. Et le sport, avant tout, avant pour moi d'être un spectacle, c'est une dimension éducative. À partir du moment où tu penses que le sport rend les gens meilleurs, eh bien, tu dois y mettre des règles, tu dois y mettre quelque chose qui est censé être partagé par tout le monde. Et donc, ça peut pas être possible de rendre une dimension comme ça de dopage obligatoire parce que tu es sur la dimension de la tentation, la dimension de la triche, la dimension, eh bien, d'être basé sur des choses qui sont pas réelles, qui sont fallacieuses, qui sont erronées, mensongères. Ce n'est pas possible de doper des athlètes pour une performance, tout simplement parce qu'à partir de ce moment-là, tu n'es plus dans une réalité, tu n'es plus dans ta propre limite, tu peux plus permettre aux gens de devenir eux-mêmes et de repousser leurs points faibles. Tu triches, tu mens aux gens, et bon, bref, c'est absolument impossible.
Tu mens aux gens, et c'est bien ça ce qui peut être inquiétant dans cette histoire, c'est que les Américains savent faire le spectacle, savent faire le show, et je suis persuadé qu'avec le blé qui va être mis sur la table, ils vont réussir à faire une compétition intéressante qui va attirer les yeux du monde entier. Et pour l'image renvoyée, je trouve que c'est déplorable pour les jeunes qui s'entraînent aux États-Unis et ailleurs pour essayer de devenir des grands athlètes en étant propres. On va leur montrer que t'as pas besoin d'être propre aujourd'hui pour gagner $1 million. Il suffit que tu te charges la mule et tu peux devenir une star des jeux à la Trump. Et j'ai très très peur de la comparaison parce qu'après tu vas te dire quoi? Tu vas te dire bah oui, je vais être à l'eau claire pendant des siècles pour gagner le SMIC. Alors que là, on me propose de faire ce que je veux, comme je veux, et de gagner des millions de dollars. Tu vas avoir les deux solutions, et je pense que ça peut avoir des effets très pervers à terme.
Alors ça tombe bien qu'on ait Marc Madiot dans cette émission, parce que moi j'ai appris en préparant ce sujet que le vélo serait interdit dans ces jeux à la Trump.
C'est pas assez.
Alléluia.
Non mais il serait interdit parce qu'ils ont déjà joué le vélo.
Oh.
je l'ai amené la vanne. C'est pas vrai, ils seront pas interdits.
Vas-y, non, Marc. Plus sérieusement, moi je partage tout ce qui a été dit par tous nos amis autour de la table. À ceci près, il faut quand même être méfiant de la situation. Encore une fois, on n'est pas en Europe, on est aux États-Unis.
Et les jeux auront lieu la prochaine fois, d'ailleurs.
Où les jeux auront lieu dans pas longtemps. Et on sait que dans certains sports aux États-Unis, on est beaucoup plus permissif qu'on ne l'est en Europe. Ah premier point. Deuxième point, ça va quand même. Va falloir regarder ce qui s'y passe dans ces fameux jeux. Parce que, pour moi, le baromètre, ce sera l'arrivée ou non de sponsors majeurs. Les grands sponsors du monde sportif à l'échelle de la planète, c'est un certain nombre de ces sponsors planétaires rentrent dans ce système. Vous verrez, on sera au début d'un nouveau truc qui sera pas forcément très reluisant.
Ok, donc tu penses que ça peut pas faire plouf. T'espères, mais t'es pas sûr.
Je
là.
Pense, je souhaite, j'ai envie que ça fasse plouf, mais... Observons et regardons ce qui va se passer, parce que ça va quand même être intéressant à regarder.
Ils sont soutenus par un milliardaire américain. C'est lui qui avait lancé l'idée.
C'est le mec qui a créé PayPal.
C'est ça.
Ouais, hein. Ouais, c'est ça.
Mais imaginons demain Red Bull arrive. Imaginons demain Coca-Cola arrive dans ce truc. Qu'est-ce qui se passe?
Allez, qui a la réponse? Qui veut faire sa copie double là,
à ce moment-là, tu vires Coca-Cola du CIO, parce qu'ils sont aussi partenaires du CIO.
Ok, bon, on en reparlera dans cette émission. Simon, tu passes ton tour pour cette fois sur le gadget, là. non, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, c'était un bon débat caché. Merci les copains d'y avoir participé. Merci pour cette émission. On applaudit quand même Fred Le Canut pour sa première.
Merci les amis.
Merci d'avoir été avec nous dans
le judo, ça se fait à deux et je vois qu'ici ça marche aussi comme ça. Sans vous, je ne serais rien.
Ouais, sauf que nous, on est quand même un peu plus que deux. Mais
c'est pas
nous,
on n'est pas.
Le début, c'est caché.
On est contre. On retrouvera David Douillet bientôt dans l'émission. Merci Simon Dutin, merci Marc Madiot, merci Christophe Cessieux. On se retrouve demain à partir de 9h pour de nouveaux grandes gueules du sport. On parlera notamment d'Italie-France. On se retrouve dans quelques instants, les paris RMC. On vous donnera toutes les cotes autour de Lille-Monaco. Une très belle affiche de Ligue 1 pour cette 23e journée. À tout de suite sur RMC.